Bon, mesdames, messieurs, je suis ravi de vous voir. Eh bien, j'ai le bonheur, plaisir et l'avantage, comme on dit dans les comices agricoles, de présenter un de mes très, très bons amis. Il n'y a pas longtemps qu'on nous connaissons, ça fait à peine 15 ans par là, même pas, c'est rien du tout par rapport à ce qui nous sépare dans le temps. Mais Michel Maffezoli est un véritable ami et donc j'ai toujours un peu de difficulté à présenter un véritable ami parce qu'on ne sait pas trop comment on va dire des choses agréables pour le séduire, pour lui faire plaisir, et que ma propension naturelle porte à la tendance opposée. Très brièvement, parce que je vais laisser la parole, il est extrêmement bavard et disert. Il fait très bien tout seul, c'est ça qui est merveilleux. Donc je vais le laisser, comme on dit, pour les gros poissons, je vais lui laisser un peu de mou, donc il faudra ne pas m'en vouloir si je ne fais pas une analyse exhaustive de son œuvre qui est considérable. Hein. Simplement, quelques traits très marquants sur cet homme. D'abord, c'est un homme du 22e siècle, donc c'est quelqu'un qui est très en avance sur son temps, mais qui se nourrit uniquement du passé, notamment de la langue grecque, dont c'est un brillant helléniste, et ça lui sert à retrouver l'usage des mots et quelquefois leur faire dire ce qu'on a perdu l'habitude de leur faire dire. Donc c'est aussi un philologue. Il se dit sociologue ou sociologiste parce qu'il a hérité de la chaire de Durkheim à la Sorbonne, qui est une chaire ô combien célèbre de sociologie. En fait, je crois que c'est lui faire une injustice que d'en faire un sociologue pur. Les sociologues sont souvent des gens bavards, ennuyeux et qui n'ont rien à dire, ce qui est loin d'être son cas. C'est en réalité un philosophe de la société, un philosophe de l'homme. C'est sûrement un philologue et c'est un anthropologue. Enfin, il y a beaucoup de log en lui. Et c'est ensuite un homme qui a un lourd passé humain. Il est fils de mineur de fond, et un mineur du Sud. Hein. Je crois que c'était le bassin de Carmaux, le bassin de Cher à Jaurès, enfin, où il y a eu un prolétariat très, très, très vivace. C'est là qu'est née pratiquement l'internationale et que les grandes réformes, des grandes révolutions ont commencé par là. À la base, c'est un prolétaire. Et comme tous les prolétaires, il est devenu un dandy, parce que c'est un dandy d'esprit. Il est élégant. Vous ne le verrez pas aujourd'hui, malheureusement, mais il a toujours des chaussettes qu'il achète à Rome, de belles chaussettes de cardinal. C'est vrai qu'il est toujours magnifiquement habillé, avec un nœud papillon, qui me fait regretter quelquefois d'avoir abandonné par anticonformisme le nœud papillon quand je suis arrivé à l'Académie de médecine, où ils avaient tous le nœud papillon. Mais il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin et il est un philosophe pur, je crois, oui. Donc, c'est un philosophe de l'homme. Je découvre au fur et à mesure où je le dis qu'en fin de compte, il est dans la grande tradition, non pas phénoménologiste, mais il est un bâtard d'Heidegger quand même, même si ça lui déplaît, parce que c'est un philosophe de l'être là et de l'être ailleurs, mais il a une sociologie des origines, une sociologie des tribus. C'est l'homme des tribus, c'est-à-dire que nous avons les mêmes préoccupations. Moi, en biologiste, évidemment, il a recours aux neurones miroirs, mais moi, c'est ma nourriture, c'est ce besoin de réhabiliter dans la biologie l'âme, c'est-à-dire le cri de la chair, ce que le corps apporte à ce cerveau désemparé, qui ne repose que sur de l'affect. Donc c'est un philosophe de l'affect, un philosophe qui n'a pas le caractère un peu béat et satisfait et encombré par... c'est comme le Buber et Lévinas et compagnie qui sont quand même un peu trop dans la christologie qui ne s'avoue pas. Donc tout son travail va porter sur la philosophie du lien, mais la philosophie qui des tribus, c'est l'homme des tribus. Il est aussi Il a fait un livre qui s'appelle L'éloge de la raison sensible. C'est un magnifique livre où il réhabilite justement l'affect, la sensibilité, tout ce qui fait notre être, et qui lui donne sa liberté, parce que finalement, la liberté de l'homme, elle est dans son animalité. Autrement dit, il tente de réhabiliter l'animal dans l'homme, ce que je ne cherche pas à faire autre chose quand je fais de la biologie. Et il cherche en plus l'ouverture dionysiaque. C'est un homme qui aime les fêtes, les célébrations, les danses, le jeu, tout ce qui est au cœur de Dionysos et de la fête, de l'enchantement, quelquefois même de l'orgie. Il a écrit sur l'orgie, il a écrit des paroles mémorables sur l'orgie. Enfin bref, cet homme qui aussi parle de l'Apocalypse et qui attend en fait l'Apocalypse. Nous sommes deux d'ailleurs à l'entendre, on fait des provisions. Pour ça, lui de vin blanc, moi de vin rouge, mais parce que ça c'est quelque chose qui nous oppose beaucoup. Mais ce soir, il menaçait de reprendre son train parce qu'il ne va boire que du vin rouge. Mais ce sera encore une difficulté à supporter. Et il réfère à tout ce qu'il y a d'inouï dans le monde de l'être. Moi, je le compare aussi à un philosophe qu'il ne cite pas souvent, mais qui est un philosophe post-dégérien qui s'appelle Ernesto Grassi, qui a été d'ailleurs l'héritier de la chaire de Heidegger et qui a publié beaucoup de ses œuvres originales. C'est-à-dire qu'il cherche tout ce qu'il y a d'inouï dans le monde, le monde d'avant, le monde de la métaphore inouïe, comme dit Grasset, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dit, mais qui est tout le temps présent. Et donc, il attend avec moi. Et nous attendons toujours, et il nous en parlera peut-être, l'Apocalypse qui n'a rien à voir avec le passé, mais qui est une préparation de l'avenir. Il tourne le dos à cette époque où nous avons le prix Montaigne bientôt à discuter. Il y a très exactement 80% de livres sur la crise. Je trouve que c'est une véritable maladie de la société actuelle, c'est la présence des économistes. Et qu'il faudrait peut-être les mettre, il serait urgent, si on avait un peu l'autorité, de les mettre dans des camps de travail ou de rééducation. Mais enfin, bon, c'est pas grave. De toute façon, ils se soignent eux-mêmes. Donc, assez de bavardage, et je lui passe la parole. Michel, je ne te couperai plus.
D'accord. Bon, que dire? Alors... tout d'abord, oui, j'occupe en effet une chaire de sociologie à la Sorbonne, mais je ne sais pas si je suis un vrai sociologue, en effet.
Non, hein,
dans mon pays, puisque tu as rappelé que j'étais de l'Hérault, on dit qu'il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Voilà, comme je n'ai pas l'ambition ni la prétention d'être un cornichon, j'essaie d'avoir une vision un peu transversale. D'ailleurs, on m'en a pas mal voulu. Et en effet, mon propos est de réfléchir un peu sur ce qu'est tout de même le lien social, en partant du principe que, dans le fond, rien n'est éternel. Tout passe, tout casse, tout lasse. Et qu'une certaine manière qu'il y a eu de vivre ensemble, d'être ensemble... qui a bien marché durant ce qu'on appelle la modernité, donc les trois siècles qui viennent de s'écouler, et bien que tout cela peut laisser la place à autre chose. Et mon propos, c'est de le faire ressortir. C'est en ce sens, d'ailleurs, que je parle d'apocalypse, dans le sens grec et étymologique du terme, qui veut dire révélation de ce qui est. Et je pense qu'il y a une manière alternative d'être ensemble qui caractérise à bien des égards une société qu'on peut qualifier d'une société officieuse, qui est très peu saisie, très peu appréciée par la société officielle. La société officielle, c'est nous, ceux qui avons le pouvoir de dire, ceux qui avons le pouvoir de faire, que ce soit les journalistes, les universitaires, les politiques. Et je pense qu'on est en train de vivre un moment où il y a un forcené décalage entre l'officiel et l'officieux. D'où le fait qu'il y ait un peu partout des Niagara d'eau tiède de bons sentiments, sur ce que doit être le monde, sur ce qu'il pourrait être, ce qu'il devrait être. Et moi, mon ambition, ma prétention, c'est de dire, d'essayer de dire ce qu'il est, même si cela, à bien des égards, nous chagrine. Voilà un peu en quel sens je considère qu'il y a un autre lien social qui est en jeu, mais qui ne se reconnaît plus dans ce qu'étaient les grandes caractéristiques qui ont constitué la modernité. Donc je suis de ceux qui, et ce n'est pas fréquent en France, il faut bien dire, essaient d'analyser ce qu'on appelle, faute de mieux, la post-modernité. C'est-à-dire ce qui arrive après ces grandes valeurs qui ont constitué, encore une fois, les trois siècles qui viennent de s'écouler. Avec, puisque tu as cité au début, et je n'ai pas honte, puisque ça a été à l'époque ma première thèse sur Marx et Heidegger, c'était il y a fort longtemps à Strasbourg, donc je n'ai pas honte de citer Heidegger, et Heidegger m'a beaucoup marqué, et il avait dans ses débats avec Hannah Arendt, qui était une grande dame de la pensée, il disait, dans le fond, on a une idée obsédante, une idée autour duquel on va revenir d'une manière un peu lancinante. Pour lui, en effet, c'est la question de l'être. Moi, pour ma part, mon idée obsédante, depuis maintenant une trentaine d'années, c'est de réfléchir justement sur ce que je viens d'appeler l'officieux, c'est-à-dire au-delà ou en deçà des divers pouvoirs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient symboliques, qu'est-ce qu'il en est de la puissance sociétale, ce qui viendrait d'en bas, cette espèce de nappe phréatique qu'on ne voit pas forcément, mais qui sustente, qui fait qu'il y ait de la faune, de la flore, qu'il y ait de la vie. Voilà mon idée obsédante. Quelle est cette puissance, à côté, en delà ou au-deçà du pouvoir? Et en général, les sociologues s'intéressent essentiellement au pouvoir. Moi, c'est quelque chose d'un peu plus profond. Voilà. Et cela, je l'ai traduit de diverses manières. Alors c'est en effet, il y a fort longtemps, ce thème qui a été mal compris parce que on l'a réduite à sa dimension sexuelle, ce que j'appelais sociologie de l'orgie, ce qui fait que je persiste et signe dans le dernier livre que je viens de faire, Homo Eroticus, mais l'orgie, orgé, c'est les passions communes. Le fait que là, ce qu'est le ciment, dans le fond, ce qu'est la manière de tenir ensemble, ce lien dont j'ai parlé il y a un instant, il n'est plus simplement dans le rationnel. Il est dans l'affectuel, il est dans l'émotionnel, le retour des affects. Voilà ce que je disais dans L'ombre de Dionysos, c'était en 82, sociologie de l'orgie. Et dans le fond, de diverses manières, j'ai essayé de voir de quelle manière cette orgie, dans son sens étymologique, orgiasme qui n'est pas à confondre simplement avec l'orgasme, et comment cet orgiasme, c'était le partage des émotions, des passions, des affects, que ceux qui étaient derrière le mur de la vie privée étaient en train de contaminer la place publique. Voilà un peu mon idée obsédante. Comment l'aborder, ce phénomène? Là encore, je reste dans cette filiation phénoménologique nommément heideggerienne, le fameux Schritt zurück, le pas en arrière. C'est-à-dire que dans notre progressisme un peu bené, le mythe du progrès qui s'est élaboré tout au long du 19e siècle, eh bien on pensait que cette espèce de grande marche royale du progrès, l'humanité était partie d'un point A de barbarie et allait arriver à un point B de civilisation absolue. Et qu'à l'opposé de ce que je viens d'appeler un progressisme bené, moi je rendais attentif à la nécessité de revenir à bien des égards aux racines. C'était le titre de ma thèse d'état à l'époque, Enracinement dynamique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est de ce que l'on a cru dépasser et qui dans le fond constitue les assises aussi, pour partie, du vivre ensemble. Voilà donc une idée obsédante, cette puissance sociétale, comment l'aborder? Eh bien, sinon, justement, en faisant référence à ces vieilles, fortes racines que l'on avait cru dépasser et qui fait qu'à côté de ce qu'est le progressisme, moi, il me paraît qu'il y a une pensée progressive qui est autrement plus complexe. C'est ça, la pensée progressive, ce serait cette espèce de conjonction à la fois, encore une fois, entre ce qui est notre enracinement et que cela peut susciter un dynamisme, c'est-à-dire une force spécifique, une force qui lui est propre. Et troisième point, ce que je disais il y a un instant, tout au début, ben justement, on a du mal, au travers des grandes catégories qui furent les grandes catégories modernes, c'est-à-dire le rationalisme, c'est-à-dire la foi dans l'avenir, la grande valeur travail comme étant l'élément essentiel par ce par quoi ce progrès s'élabore, eh bien, on a du mal à prendre acte, à apprécier du fait qu'il puisse y avoir une autre manière de se rapporter à l'autre, une autre manière de vivre justement le lien social. Pour moi, ce n'est pas simplement le rationalisme, c'est en effet la raison sensible. C'est-à-dire ne pas oublier que l'animal humain est aussi un animal. Et que c'est parce que justement, ou quand on a oublié qu'il y avait de l'animalité dans l'humain, qu'on a abouti à la pire des bestialités. Et qu'il convenait donc, et le siècle qui vient de s'écouler n'est pas avare justement de ces formes de bestialité, les divers camps, nazis ou communistes, en sont l'expression. Alors que dans le fond, si on savait homéopathiser cette animalité, on pouvait éviter la bestialité. Voilà ce que j'appelle, moi, l'homo eroticus. Voilà le retour des affects, une espèce d'homéopathisation, encore une fois, du sensible. Ne pas le dénier, ne pas simplement le canoniser, mais voir comment, et c'est cela le propre des sociétés équilibrées, comment arriver à l'intégrer, je viens de faire cette métaphore, l'homéopathiser. Comment j'arrive en quelque sorte à la manière aristotélicienne, sans purger dès le moment où ça s'exprime, où ça sort, où ça a un élément, ça, c'est un élément de la vie sociale. Voilà un peu, je ne sais pas si je pourrais bien sûr continuer longuement dans ce sens, mais c'est cela que j'appelle homo eroticus, des communions émotionnelles, c'est-à-dire rendre attentif au fait que, eh bien, à l'encontre de ce qu'il est fréquemment dit, à savoir compte tenu de l'individualisme contemporain et autres, je dirais, autres pensées convenues que l'on entend de diverses manières, ben, se rendre compte qu'il y a de la vitalité, qu'il y a un vrai vitalisme, qu'il y a une manière d'être ensemble qui ne se résume pas, qui ne se réduit pas à la simple raison. Et que dans le fond, c'est justement en le constatant, en essayant de l'accompagner, qu'on peut éviter le pire. C'est ce que moi, j'ai souvent été inspiré par, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, enfin, un penseur, sinon un philosophe allemand qui est Walter Benjamin, disant que chaque époque rêve la suivante, il faut accompagner ce rêve pour que ça ne devienne pas un cauchemar. Moi, je disais, dans la mesure où on constate qu'il y a actuellement un retour de ces formes oniriques, festives, ludiques, encore une fois, comme toujours, quand ça revient pour le meilleur et pour le pire, il vaut mieux d'abord le constater et ensuite l'accompagner. Voilà un peu les éléments que je donne dans ces communions émotionnelles qui peuvent être de divers ordres, mais qui me paraît en effet être une nouvelle manière de constituer, puisqu'on était parti de là, de constituer le lien social. Un lien social qui n'est plus ou qui n'est pas simplement réductible au pur contractuel, purement rationnel, mais justement qui arrive à conjoindre des éléments que jusqu'alors nous avions dichotomisés, opposés. La raison et le sensible. Et qu'il y a, on n'a pas de mots pour dire ça. Moi, j'emploie un terme qui est, dit-on, une belgitude. Je dirais que c'est justement si on arrive à faire cette conjonction qu'on arrive à avoir une conception entière, l'entièreté de l'être, pour moi. C'est cela qui me préoccupe. C'est cela, encore une fois, cette puissance dont je parlais il y a un instant et qui est au corps même, donc, de mon idée obsédante. Voilà, cher ami.
Bien, c'est magnifiquement résumé ta pensée. Il est évident que moi, j'ai une approche qui n'est pas très différente de ta pensée, puisque pour moi, l'affect précède l'acte, si vous voulez, alors que dans la psychologie traditionnelle, l'affect n'est qu'une conséquence parfois malheureuse de l'acte. En réalité, toutes nos actions, donc notre pensée, qui n'est jamais qu'une forme d'action, puisque c'est l'action, on le sait aujourd'hui, 99% des cas inconscientes. Donc, il y a une espèce de micmac avec l'esprit, la conscience et tout ça qui embête beaucoup les neurobiologistes qui n'y voient pas clair. Mais s'il y a une chose qui est claire, c'est le désir. C'est ça. C'est un mot que tu n'emploies pas beaucoup, le désir. Parce que le désir, évidemment, a sa contrepartie qui est l'aversion, qui est la fuite. C'est toujours ce système de balance. Et ça passe par l'autre. C'est-à-dire que ce besoin de l'autre, qui est un besoin à peu près aussi fort que le besoin d'oxygène pour un animal qui a besoin de respirer, donc qui a besoin d'oxygène, un homme ne peut acquérir son humanité et un animal son animalité que s'il, d'une façon ou d'une autre, cède au désir. C'est-à-dire quelque chose qui, dès le début, pour moi, s'appelle l'amour, c'est-à-dire l'éros. Je crois que, moi j'ai une expression, c'est que le vivant, c'est quand l'amour vient à la matière, c'est-à-dire que tout dans la matière devient tout d'un coup un système de reconnaissance entre affinités. Le livre que pour moi est essentiel, c'est Les affinités électives, qui donne un merveilleux résumé pour l'époque de ce que peut être l'amour, qui est un désir, un déplacement du désir, tout ça parce que le désir, il doit s'appliquer sur un objet, et que cet objet, c'est soit pour un crapaud, une crapaude, soit pour l'homme, une femme, si c'est un mâle, ou une femelle, si c'est une femelle, ou un mâle, si c'est une femelle. Enfin, vous voyez, vous faites ça comme ça, vous n'êtes pas dans le mariage gay en ce moment. Mais c'est l'autre, c'est cette nécessité absolue de l'autre qui fait qu'en fin de compte, on arrive à annuler la barrière de la chair pour qu'il y ait une sorte de fusion entre, appelez ça esprit si vous voulez, mais c'est immatériel, c'est une force que Schopenhauer comparé un peu à la gravitation universelle, c'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est la gravitation universelle. C'est une des rares forces dont l'origine n'a pas pu être expliquée par la physique contemporaine. On ne sait pas. Et pourtant, on sait très bien que les deux corps s'attirent par la vertu de cette loi d'attraction universelle. Eh bien, je crois que l'animalité, la vie d'une manière générale, parce qu'on pourrait même l'étendre à des formes très élémentaires de vie, repose sur cette attraction qui est la quête de l'autre et la pénétration de l'autre, et que le sexe et l'amour, pour moi, sont tout à fait superposables. Je ne fais pas la différence entre le sexe et l'amour. Je dirais que je suis un peu trivial et un peu animal, mais il me semble que la meilleure façon de faire l'amour, c'est de se servir de son sexe au sens le plus, je n'ose pas dire noble, car ce n'est pas noble, mais le sens le plus généreux, le plus ostentatoire, puisqu'il s'adresse à un autre, du désir. Voilà. Donc, je crois que tu dois pouvoir développer sur cette présence du désir avec son opposant, parce qu'il y a aussi ce jeu des processus opposants.
C'est vrai que je n'utilise pas, en général, pas souvent, le mot désir.
Non.
Tout simplement parce que je suis d'une génération où il y a eu, à un moment donné, dans les sciences humaines, il y a eu comme ça, autour de Deleuze, autour de Guattari, il y avait une hypertrophie, d'une certaine manière, du désir, et en particulier avec une connotation ou une accentuation qui était dès lors beaucoup plus psychologique ou individuelle. Voilà. Mon propos, j'ai dit tout à l'heure que je ne savais pas, et ce n'est pas important si j'étais ou pas sociologue, mais quand même mon propos est plus collectif, si je puis dire. Et donc du coup, j'ai quelques réticences à employer ce mot désir, mais ce n'est qu'une réticence que je viens de dire là. Hein, c'est-à-dire elle n'est pas importante, puisque, ainsi que je le disais tout à l'heure, ce qui est quand même cette préoccupation, puisque je parlais d'idées obsédantes, c'est en effet, si je le dis un peu à la manière bergsonienne, qu'est-ce qu'il en est de cet élan vital? Qu'est-ce qui fait que, au-delà des discours un peu catastrophistes, un peu de sinistrose ambiante, eh bien, il y a ce que j'ai appelé il y a un instant cette espèce de vitalité, ce vitalisme indéniable que l'on voit, ces nouvelles formes de générosité qui est en particulier repérable quand on regarde ce qu'on appelle les pratiques juveniles, hein, ces jeunes générations où, dans le fond, il y a énormément de difficultés de divers ordres, et puis un peu à la manière galiléenne, je dis, et pour sa mauve et pourtant sa vie. Hein, et de fait, cette manière de dire « et pourtant sa vie », quoi qu'il y ait d'énormes difficultés que l'on sait de divers ordres, ce serait une autre manière de dire sans le dire le désir. Voilà, c'est un peu cet élan vital. D'ailleurs, dans ce dernier livre, qui est une espèce de synthèse de tout ce que j'ai écrit depuis une trentaine d'années, je mets en place, même en reprenant un terme que j'emprunte à un sociologue, philosophe allemand assez peu connu en France, qui est Max Scheler, un ordo amoris, c'est-à-dire un ordonnancement à partir de cette idée d'amour, mais dans le sens, encore une fois, large du terme. Et quand Max Scheler proposait cette idée de ordo amoris, C'était à partir d'une intuition. Il est mort jeune, finalement, et puis son œuvre, il ne l'a pas poursuivie. Mais c'était à partir d'une intuition très forte en disant, finalement, tout ce par quoi commence la modernité, c'est le fameux ego cogito cartésien. Donc, il est fondamentalement une forme d'enfermement en soi. Et le point de départ, c'est cet ego. Alors que ce qu'il montre, et c'est ce qu'il développe, et moi je le reprends tout à fait à mon compte dans cet ordo amoris, dans cet ordre de l'amour, eh bien c'est qu'il y a une espèce d'inversion de polarité. C'est-à-dire que je n'existe qu'à partir de l'autre, qu'à partir de l'altérité. Exactement ce que tu viens ici d'indiquer. Donc c'est l'autre qui me crée.
C'est l'homme de la Einfühlung.
Alors bien sûr, c'est les formes, c'est le sentiment, le ressentiment.
Avec sa copine, il était très copain avec la bénédictine, enfin,
On sent que tu es en train d'induire encore quelques méchancetés.
Non, pas du tout. Elle n'est pas méchante. Elle a été formidable. Elle est morte en déportation pour suivre ses filles.
Edith Stein.
Stein, c'est une femme admirable. C'est les élèves de Husserl.
Je ne faisais pas référence à ça. Je faisais référence au cœur même de sa pensée, qui était de dire, dans le fond, j'existe que par et sous le regard de l'autre. Voilà.
Mais bon. C'est ça. C'est
ce qui est une très belle idée. Et moi, j'essaie, si je puis dire, en quelque sorte, là encore, comme je disais depuis tout à l'heure, pour le meilleur et pour le pire, de socialiser cette idée. C'est-à-dire que finalement, c'est l'autre qui me crée. Il n'y a plus, au cœur même du lien social, il n'y a plus cette idée qui était la grande idée moderne d'autonomie. Je suis ma propre loi. Mais au contraire, de l'hétéronomie. C'est-à-dire, la loi, c'est l'autre qui me la donne. Et ça peut aller très loin, ça. C'est l'autre qui me dit comment je parle, comment je m'habille, comment je me comporte. C'est ça que j'ai appelé, moi, le mimétisme tribal. Ça peut prendre des formes de cet ordre-là.
C'est les formes de la théorie de la simulation.
Et du coup, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, vous comprenez bien. Mais disons, il me paraît important de décrire, si je reprends ce mot que je dis il y a un instant, cette hétéronomie. Alors que tous nos systèmes de pensée, en particulier français, repose sur, encore une fois, un contrat social à partir de l'idée d'autonomie. Je suis d'abord moi-même. Et c'est à partir de là que se crée contractuellement le lien, le rapport à l'autre. Alors que l'inversion, moi, puisque je cite Scheller, qui me paraît être très paradigmatique chez Scheller, mais moi qui me paraît être un bon levier méthodologique pour comprendre nombre de phénomènes contemporains, toutes les hystéries sportives, musicales, consommatoires, religieuses, enfin, peu importe en la matière, eh bien, c'est au contraire, justement, cette idée-là, il y a tout de même d'abord de l'hétéronomie. C'est d'abord l'autre qui existe et c'est l'autre qui m'aide à être ce que je suis. Et alors, le paradoxe absolu, puisque comme quelque chose qui est à l'état naissant, c'est toujours paradoxal, c'est que, dans le fond, ce que je viens de dire, qui est une vieille lune, c'est l'autre qui me crée. C'est l'idée de communauté. C'est pour ça que moi, j'avais parlé de tribu, de retour des tribus. Il se trouve que, et c'est cela ma définition de la postmodernité un peu prétentieuse, définition un peu prétentieuse, qui consiste à dire synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire démultiplication des effets entre cette vieille lune, c'est l'autre qui me crée, je n'existe qu'à partir de l'altérité, plus le développement technologique, la tribu et Internet. Et c'est là où l'on voit que de diverses manières, au travers, encore une fois, des forums de discussion, des blogs, Facebook et autres sites communautaires, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans le fond, il y a des formes d'épidémiologie. Hein, ce n'est plus de la sociologie qu'il faudrait faire. Il y a de la viralité, disait mon regretté ami Baudrillard. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a du virus dans l'air. Voilà. Et donc, là, il y a un vrai changement important que l'on a du mal à apprécier et qui est certainement, là, le passage dans un autre cycle où on ne se constitue pas à partir de soi, si je dis bref, mais à partir de l'autre. Et que le développement technologique conforte et favorise ce rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'il met l'altérité au cœur même du débat.
Oui, mais c'est l'autre comme toi. Est-ce que tu ne fais pas... Là, tu viens de parler, tu as joué avec ça, avec cette notion tu as dit, de maladie, de contagion. Et qu'est-ce que tu penses de la contagion affective qui paraît être actuellement une force des foules qui est considérable. Ah, je fais référence à Gabriel de Tarbes, mais qui avait été finalement bien repris par les philosophes que tu citais tout à l'heure, où il y a en quelque sorte une exclusion totale de la raison, c'est-à-dire que c'est l'autre, ça vient de l'autre, et l'autre, on ne sait pas qui c'est de toute façon. Il y a cette contagion qui est imitative. Or, il faut bien savoir que le cerveau fonctionne beaucoup chez l'animal comme chez l'homme par imitation de l'autre.
Oui, moi qui... Alors, tout d'abord, ces contagions affectuelles, elles me paraissent être une des réalités contemporaines. Oui. J'ai bien dit, hein, d'ailleurs même, j'ai proposé, je parle dans ce livre, en revenant à l'étymologie du mot, de parler de ces hystéries. Hein, c'est le ventre qui est sollicité, l'ustérus. J'ai bien dit que le soit musical, que le soit religieuse, que le soit sportive, que le soit politique, divers ordres. On voit bien en quelque sorte comment il y a cette dimension épidémiologique. Moi, je sais, j'ai pas envie de... C'est pas mon métier et je sais pas le faire, dans le fond. Et puis, pour tout dire, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Il me paraît que dans un premier temps, en tout cas, ce moment que nous vivons, il est important d'abord de faire constat. Ça, c'est la vieille tradition phénoménologique weberienne, neutralité axiologique. On me le reproche souvent, mais je maintiens, c'est-à-dire je n'ai pas envie de dire si c'est bien, si c'est mal, mais d'abord quasiment faire photographie, constater un certain nombre de choses, de manière à ce que chacun, éventuellement, à partir de ses convictions, de ses opinions, etc., puisse agir ou réagir ou contre-agir, enfin peu importe en la matière, mais en tout cas, ça ne dépend plus à ce moment-là de ce que nous avons, nous, en tant qu'universitaires, à dire, à mon avis. Troisième point, ces contagions, ces lois de l'imitation, si on parle Gabriel comme Gabriel Tarde, je n'aime pas le mot, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire je ne suis pas sûr que ce soit une négation de la raison, je ne suis pas sûr que ce soit du pur irrationalisme, c'est, si je redis encore, cite ici encore Max Weber, c'est quelque chose, ce sont des phénomènes qui sont, disons, non rationnels.
Mais c'est pré-rationnel.
Non.
C'est pas non rationnel.
Non,
c'est...
alors je vais préciser. Je dis bien non rationnel dans le sens weberien du terme, c'est-à-dire qui ne s'inscrivent pas dans la conception qui a prévalu de la raison à partir du 19e siècle, Zweckrationalität, c'est-à-dire une rationalité qui va quelque part, qui a un but, ce qui était le grand rationalisme. On peut imaginer, et quand Weber parle du non-rationnel, disant le non-rationnel n'est pas irrationnel, il a une raison qui y est propre. Telle pratique juvénile, si je le dis simplement, ne s'inscrit pas dans le rationalisme qui a prévalu jusqu'à maintenant, il est possible qu'il ait une raison qui est propre.
Une raison que la raison ne connaît pas.
Par exemple, et dont les affects jouent leur rôle. Un autre sociologue, d'ailleurs peu connu en France, mais non moins intéressant, qui est Vilfredo Pareto, disait tel ou tel phénomène sont non logiques, mais ils ne sont pas illogiques. Ils ont une logique qui est la leur. Et tout notre travail, plutôt que de stigmatiser, de condamner, etc., c'est de voir quelle est cette logique à l'œuvre. Prenons un exemple simple, moi qui m'est cher. Ce qui est en train de se développer, on peut en penser ce qu'on veut, ce que j'appelais moi le tribalisme, le retour du communautaire. Dans une perspective qui est la nôtre, c'est-à-dire celle d'une république une et indivisible, regardez comment il est fréquent, commun, et à mon avis dangereux, de stigmatiser cela en parlant du communautarisme. Et disant le communautarisme, c'est à partir de cette conception, je l'ai bien dit, d'une république une et indivisible. On peut imaginer que la res publica, la chose publique, soit justement une mosaïque de diversité. Et donc, dans le fond, il peut y avoir, c'est ça la communauté. C'est-à-dire, il y a des communautés, il y a des tribus, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. On ne peut pas tous les tuer, elles sont là. Et donc, il faut voir de quelle manière on peut imaginer une res publica, cette chose publique, ajustant, tant bien que mal, pas a priori, mais a posteriori, ces manières d'être ensemble, ces communautés. Voilà. Alors, c'est là où... moi, je le vois, je discute avec des gens qui, près de, autour de moi, pense beaucoup à la médecine et se rendre compte que, en termes de santé publique, par exemple, il est important de réfléchir à ce que pourrait être justement une prise en charge communautaire de telle ou telle maladie, et pas quelque chose qui vient simplement du haut, d'une manière verticale. Donc, tenir compte du fait qu'il y ait de la communauté, de la tribu, enfin, peu importe les mots qu'on va employer, et voir comment cela peut être une nouvelle manière de faire du lien social. Donc, ça n'a pas, c'est ça la raison interne. C'est ça quelque chose qui est peut-être non rationnel par rapport à la grande perspective du rationalisme qui a prévalu dans la conception verticale et surplombante de la société moderne, et française en particulier, mais qu'il puisse y avoir justement une raison spécifique dans ces communautés. Voilà, en quel sens, moi, je suis de ceux qui disent « Attention, ça ne sert à rien de stigmatiser, ça ne sert à rien de condamner a priori. Quand quelque chose est là, il faut l'accompagner. » Je disais tout à l'heure, de manière à ça ne devienne pas pire. Et que c'est en l'accompagnant, en quelque sorte, eh bien, qu'on pourra voir justement quelle est la raison à l'œuvre dans ce qui apparaît comme étant irrationnel.
Oui, c'est une raison pragmatique, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus informé de ce que sont ce qu'étaient les sociétés primitives de l'époque juste pré-néolithique. On retrouve ces sociétés notamment chez les Bochimans, les Pygmées, ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'ils sont, justement ? Ils ne sont pas communautaires. Ce sont des petites collectivités, enfin des petits groupes, où chacun est à sa place. C'est-à-dire que la solidarité, qui pourrait être universelle et une vertu partagée par tous les humains, devient répartie et orientée sur un groupe d'individus qui sont solidaires. C'est-à-dire que quand on bouge l'un, quand il se déplace de la place qui lui est assignée dans le groupe, par ses talents particuliers, par sa singularité, eh bien, le groupe, déjà, rien que pour ça, rien que pour ce petit qui est déplacé, déjà se compromet. Donc il y a une sorte de compromis permanent entre les talents particuliers et la responsabilité collective. C'est la morale anarchiste, ça. Oui. Mais ça n'est possible que dans le petit groupe. D'où l'idée que ces petits groupes pourraient être connectés par le net, mais qu'elles ne fassent pas appel à la grande pagaille universelle que fait régner le net, c'est-à-dire la confusion des individus, la grande foire universelle qui n'a absolument rien. C'est la foire, c'est-à-dire le désordre. C'est tout le contraire du désordre. Et je pense que c'est là où on retrouve ton idée de l'orgie, c'est que l'orgie, c'est une forme supérieure de l'ordre, en fin de compte. Une orgie sans ordre, c'est ingérable. Oui. Je ne sais pas si vous avez été dans des orgies. En tout cas, moi pas, mais j'en ai entendu parler. Mais par exemple, l'orgie qu'on appelle par exemple partouze, eh bien chacun dans une bonne partouze joue un rôle et ne peut pas en sortir. Mais il doit y trouver sa jouissance que lui procure l'autre. Alors tout ça, ça repose sur l'organisation. Et ce qui faisait dire notamment à Élisée Reclus que l'anarchie, c'est la forme supérieure de l'ordre.
Oui, avec la précision, et moi je pense qu'un des éléments de la postmodernité, c'est, si je dis un gros mot, une anarchie ontologique. Donc moi
j'accepte ce mot qui est très, très lumineux.
Retour dans la postmodernité, cette idée d'Élisée Reclus, l'ordre sans l'État.
L'ordre sans l'État. Hein,
c'est-à-dire qu'il y a un ordonnancement des choses.
Alors, sans hiérarchie.
Si je puis me permettre quand même d'être légèrement en désaccord avec toi. C'est que, justement, moi, ce qui me frappe dans ces nouveaux moyens de communication interactive, Internet pour ne pas le nommer, c'est que, justement, est en train de se mettre en place, véritablement, une manière d'ordonnancement qui chagrine toute instance surplombante et verticale. J'ai même proposé dans ce livre de dire « nous passons d'une verticalité, hein, chaque société se définit par un lieu, un topos, nous passons de la verticalité de la loi du père à l'horizontalité de la loi des frères. »
Tu as tout à fait raison.
Il y a de la loi. Il y a de la loi. Hein. Je dis affrèrement pour éviter le mot fraternité, mais enfin, peu importe là-dessus les termes que j'emploie. Ce qui est certain, c'est que Internet aidant, et là, nous avons en France un problème. Tout comme je disais tout à l'heure, il y a cette stigmatisation constante du communautarisme. Je suis frappé de voir comment il y a très peu d'analyses pertinentes sur Internet. Moi, c'est pas de ma compétence, mais enfin, il y a vraiment très peu. Et un des chercheurs de mon centre, dont je vous conseille le livre, qui s'appelle Stéphane Hugon, a fait un livre justement sur l'imaginaire d'Internet pour réfléchir. Mais c'est un des rares qui réfléchit ça. Et tout simplement parce qu'il y a une espèce de frousse en France vis-à-vis de ceux qui échapperaient justement à la verticalité du pouvoir. Et qu'il y a une très peu d'analyse, ou à mon avis très mal faite, sur cette horizontalité. Or, qu'est-ce qu'on observe ? Je donne deux exemples. Une étude qu'on vient de terminer sur ce réseau qui s'appelle Couchsurfing. C'est-à-dire le fait qu'aux quatre coins d'Europe, 5 millions d'internautes arrivent à trouver ce soir un sofa, un canapé, pour coucher à Berlin, à Hambourg, à Barcelone, à Paris, etc., bien sûr, à charge de revanche. Voilà typiquement une nouvelle forme d'hospitalité. Enfin, pas une nouvelle forme. La vieille forme de l'hospitalité médiévale qui trouve l'aide du développement technologique. Voilà typiquement quelque chose qui montre que... Enfin, c'est un indice, hein, parmi beaucoup d'autres, index, hein, quelque chose qui montre bien qu'est en train de se mettre en place cette anarchie ontologique dont je parle, moi, c'est-à-dire le fait qu'il puisse y avoir des formes de régulation interne, qu'il puisse y avoir un lien social qui ne fonctionne pas à partir, encore une fois, de ce à quoi nous étions habitués, c'est-à-dire la verticalité du pouvoir, le grand jacobinisme que nous connaissons. Et cet exemple que je viens de dire... On en trouve des quantités du même ordre, encore une fois, traduisant bien cette forme d'horizontalité, c'est-à-dire, je répète mon expression, des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de générosité, mais minuscules. Et chacun de ces éléments constitue une petite tribu. Moi, j'avais commencé à proposer cette métaphore provocatrice un peu de la tribu, il y a fort longtemps, quand un de mes chercheurs... avait fait une étude qui m'avait paru lumineuse en analysant telle petite tribu musicale de sous-musique techno d'Albi. Et comment cette petite tribu musicale avait réussi, grâce à Internet, à trouver le même type de tribu faisant le même type de musique à Bratislava. Et voilà un lien qui s'était créé avec, bien évidemment, des renvois, de passer 2 mois ici, 1 mois là, en fait, etc. Donc, quelque chose qui, tel que cela a été au Moyen-Âge, bien, il y avait une circulation là, des idées, des hommes, des affects, hein, commerce amoureux, commerce des idées, commerce des biens. Et que se rejouer... Internet aidant, eh bien, cette nouvelle forme de solidarité. Voilà, par exemple, ces deux exemples, et on pourrait en trouver des kilos du même ordre, qui traduisent bien cet ordonnancement, le fait qu'il y a de l'ordre qui est en train de se mettre en place. J'ai commencé tout à l'heure en parlant de la société officieuse. Voilà ce qu'est cette société officieuse. Voilà un peu cette espèce de socialité au noir dont on peut trouver des quantités d'exemples en ce sens-là. Voilà pourquoi moi je ne stigmatise pas Internet. Je considère qu'il y a là un ordonnancement qui est en train de se faire et qu'il faut le repérer, il faut en voir les multiples formes et voir comment la multiplicité des sites communautaires traduit cela, finalement. Voilà. Et le mot même, l'expression même est de ce point de vue intéressante, site communautaire. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, ben, y a partage d'un lieu et que ce lieu fait lien. Alors c'est un lieu symbolique, c'est un lieu de divers ordres, immatériel, tout ce que l'on veut, mais il n'en reste pas moins que cela est à la base même de ce nouveau lien, moi qui me paraît important, et qu'il est nécessaire dont il est nécessaire de prendre acte, plutôt que de se catastropher, hein, plutôt que d'avoir cette espèce de morosité, tout fout le camp, ils n'ont plus de valeur, qui très souvent tient lieu d'analyse.
Oui, c'est l'exemple actuel qui est très intéressant, justement je parlais des économistes qui ne sont là que pour prêcher le malheur.
Oui.
Islama, là, par exemple, est en train de... Mais enfin, on peut chercher des consolations. Et c'est quand même, il y a des consolations très régressives, comme la religion, etc., aujourd'hui, qui reprennent. Tu t'es interrogé sur ce retour du religieux, ou ça te paraît quelque chose de... une sorte de bruit de fond social
Moi, je réponds à cela, ce que Léon Blois disait, tout est admirable.
Oui.
Hein, c'est-à-dire, tout ce qui est.
Oui.
Bien. Ce que je peux dire sur ce que tu viens de dire, c'est que, dans le fond, oui, il y a retour, disons, de quelque chose qu'on avait cru dépasser.
Ouais, c'est-à-dire qu'on était en plein 19e siècle. Le sentiment qu'on avait, c'est de retrouver...
Moi, je m'attardais à ce que Mgr Duperlot fasse une intervention comme il en avait d'habitude.
Non, c'est pas exactement cela. Moi,
je réhabiliter le peuple et Dieu.
Non, je ne pense pas qu'il y ait retour du religieux. Là-dessus, je serai un peu plus précis sur les termes. Je dirais qu'il y a retour d'une forme des formes de religiosité.
Oui, religiosité, moi je suis d'accord, mais enfin, c'est quand même très religieux parce que c'est quand même très dogmatique. C'est quand
alors,
même...
Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Non. Disons que parmi cette religiosité.
Je connais tes perversions. Hein.
Bon.
Une petite tendance.
Non, mais puisque tu me provoques.
C'est pas pour rien que tu portes des chaussettes rouges. Hein.
Non, elles sont un jour rouge, un jour violet.
Je n'ai pas abusé de la provocation jusqu'à présent. Hein. Tiens-toi bien.
Non, ce que je veux dire, c'est que. Cette religiosité est indéniable. Et on voit comment, de plus en plus, nos sociétés censément rationalisent. Ce sont des patchwork, je dirais, un peu de bouddhisme tibétain, de tantrisme, de candomblé brésilien, de cri primal et autres formes du New Age contemporain. D'accord.
Et, mais ça, c'est une chose.
Alors, attends.
C'est parmi, pas l'Église catholique.
Voilà, parmi ces formes de religiosité, ben, à côté de cela, mais pas forcément majoritaire, ben, il peut y avoir des formes de fanatisme de divers ordres. Oui. L'islamisme en est un, le paray-lemonien catholique en serait une autre. Enfin, on pourrait trouver les divers intégrismes protestants en sont d'autres formes.
Les méthodistes, par exemple.
Méthodistes, les baptistes du septième jour. J'en connais, moi, quelques-uns de ces groupes. Et on a pas mal d'études dans mon centre là-dessus. Mais considérons-le comme étant une mosaïque. Et ces formes les plus extrêmes ne représentent pas les éléments les plus développés. Je veux dire par là qui seraient les plus importants. Non, il y a même au contraire une espèce de contrebalancement de ces petits dieux. C'est Weber qui disait, et d'une manière prémonitoire et quelque peu prophétique, il disait il va y avoir retour du polythéisme des valeurs. Et ce polythéisme des valeurs, ben, les expressions que je viens de dire en sont. Et en même temps, ce n'est pas dérangeant, parce qu'il poursuivait d'une manière quelque peu ironique, quand les dieux se font la guerre, les hommes sont tranquilles. Donc de ce point de vue, je dirais plus il y en a, mieux c'est, en quelque sorte. Hein, voilà. Et c'est quand il y a quelque chose qui est rigide, et quand quelque chose qui est monovalent, qui est mono sous ses diverses formes, que cela devient à bien des égards dangereux. Or, il y a au contraire une forme de tolérance qui fait que y a des contrebalancements entre ces formes de religiosité. Voilà ce que je peux dire, moi. C'est-à-dire que Alors, bien sûr que les formes les plus extrêmes, et l'actualité n'est pas avare d'exemples les plus sanglants, on le sait, ces formes-là sont des formes à bien des égards dangereuses, mais elles ne sont que très relatives par rapport à d'autres. Voilà ce que je peux dire.
Tu ne penses pas qu'il y a un retour de Moloch, quand même?
Non. Non, moi je...
Tu ne vois pas en Israël une réoccupation du terrain par balle.
Non, disons que je pense pas que ce soit. Alors, il se trouve que c'est cela que l'on va faire ressortir, parce qu'il y a une fringale dans le fond du scoop, et il y a une fringale de ce qui est le plus paroxystique.
On le verra aux prochaines élections en Israël, on le fera dimanche prochain.
Mais ce n'est pas ça qui est le plus l'essentiel, parce que le monde en son entier est quand même vaste, et on ne peut pas le réduire aux petites luttes judéo-islamiques.
D'accord, mais il y a quand même un paradoxe.
Il y a quand même quelque chose, moi, auquel je suis beaucoup plus attentif, qui est une vraie orientalisation du monde. C'est-à-dire que, encore une fois, dans notre géocentrisme, et il ne faut pas oublier que quand même l'islam n'est qu'une forme de monothéisme. C'est un combat d'arrière-garde. Ils font ce que nous avons fait il y a 3 siècles en termes de guerre de religion.
Oui,
mais par rapport à ce monothéisme, alors c'est embêtant quand on est là, bien sûr, mais par rapport à ce monothéisme, il faut quand même observer ce qui en est de l'orientalisation du monde. Moi, un centre important de mon groupe se retrouve à Séoul, Tokyo, un autre à Rio de Janeiro, San Paulo, et on voit bien comment il y a dans ces lieux-là quelque chose qui ne se reconnaît plus fondamentalement dans le monothéisme, qui fut le monothéisme occidental, les judéo ou sémites.
Il n'y a jamais eu de monothéisme en Chine et en Corée, c'est des pays sans métaphysique. Mais actuellement, il y a quelques paradoxes, tu me diras, je suis en train de faire de l'anti-Israël primaire, là, c'est pas vrai, c'est pas du tout mon cas. Mais il est clair que le pays le plus avancé sur le plan technologique, et notamment en biotechnologie, avec et une pratique. C'est la plus grande source de cellules souches au monde qui sont fabriquées en Israël. Donc c'est les nanotechnologies, c'est actuellement le plus avancé, c'est Israël. Il y a donc un contraste extraordinaire entre cette avancée technologique et l'archaïsme fondamentaliste qui va faire probablement 50% aux élections ou 60% la semaine prochaine.
Oui, donc enfin,
comment une société peut être aussi schizophrène, aussi double dans la gestion et supporter le dieu Baal, quoi, le dieu qui est un dieu qui consomme de la chair humaine et qui va détruire ses voisins. Et en même temps, avoir ce progrès. La même chose, moi, j'ai été purgé à Rome, on m'a chassé de l'Académie pontificale, ce que je déplore profondément, parce que c'était l'Académie dite de la vie, c'est-à-dire l'Académie de la vie qui interdit l'avortement, qui interdit le contrôle des naissances, oui, qui interdit tout ça, c'est-à-dire l'archaïsme le plus noir, le plus rétrograde. Ça cohabite très bien. Donc ça doit faire réfléchir, ça.
Oui, réfléchir, mais pas trop. Hein, je veux dire, réfléchir.
Non, mais tu as raison.
On ne réfléchit jamais assez.
Ça n'empêche pas de dormir.
Non, hein. je veux dire par là, pas réfléchir uniquement à partir d'un petit canton du monde. Voilà, ma perspective est...
Un canton très envahissant.
J'entends, parce que c'est le nôtre. Et encore une fois, c'est toujours gênant dans une famille quand il y a un enfant handicapé.
As-tu irais jusqu'à parler de handicap. Moi, l'image ne me déplaît pas.
Donc,
c'est une de ces saillies dont tu es assez coutumier. Je la retiendrai.
Je dois avouer que j'essaie d'avoir une vision beaucoup plus transversale. Et en la matière, j'insiste sur l'expression que j'ai employée il y a un instant, cette orientalisation du monde. Voilà. Dans cette orientalisation du monde, c'est-à-dire le retour en masse de ce que qui n'était pas notre centre d'intérêt, l'Extrême-Orient, eh bien là, je dirais qu'il y a une relativisation, encore une fois, d'une conception monovalente du sacré. Quelque chose qui est beaucoup plus diffracté. Et c'est en ce sens... Voilà en quel
sens, sacré qui revient
je veux mettre en perspective. C'est tout. Je ne veux pas non plus... je ne suis pas bené non plus. Je ne veux pas dire que les exemples que tu as donnés ne méritent pas d'être pris
jamais
en considération.
Dans bené, il y a bénédiction.
Ben oui, mais moi, je suis assez admiratif du monde. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je veux tout simplement mettre en perspective. Tu es parti en me disant qu'est-ce qu'il a des formes religieuses, je dis, il y a de la religiosité et soyons attentifs au fait que, encore une fois, certaines formes de cette religiosité qui ne nous étaient pas familières sont en train de contaminer le monde. Moi, j'étais frappé il y a peu d'ailleurs de voir par exemple un de ces scoops qui ne veulent rien dire mais qui sont quand même des indices intéressants, c'était l'Express pour ne pas le nommer, disant 2 millions de Français. Bon. Alors, bien évidemment, 2 millions de Français bouddhistes, excusez-moi, bouddhistes. Bien évidemment, il n'y avait pas forcément 2 millions de Français bouddhistes, mais ça voulait dire tout simplement que tout un chacun avait fait un peu de yoga, telle conférence du Dalai Lama, ou que sais-je, vous voyez, des trucs dans
ce genre.
Il y a des
pratiquants,
voilà.
Quand même.
Non, mais j'entends bien. Mais ce pour dire que voilà des indices, pour moi, de quelque chose que j'appelle cette religiosité qui ne se résume pas dans une conception monovalente et monothéiste du sacré, qui nous est familier. Voilà, c'est tout. Et que de ce point de vue, je maintiens la position weberienne, me paraît une position saine, juste, droite, raison et bon sens réunis. Plus il y a des dieux, mieux c'est.
Moi, je crois aussi.
Ils se relativisent les uns
par rapport
aux autres.
Retour au polythéisme, justement, il faut noyer dans la foule les quelques dieux qui se...
C'est ça, je tiens à préciser.
Quant à les dieux olympiens qui sont les tiens, c'est-à-dire les deux,
non, mais les dieux
Apollon et l'autre.
Et mon petit Dionysos, oui.
Ils sont un peu agités quand même.
Oui,
donc,
mais...
Moi, j'aime bien les demi-dieux.
Je m'étais amusé à faire à l'époque... une comparaison, ce qui était ce feuilleton qui s'appelait Dallas.
Ah oui, c'est très bien, Dallas. Et ton univers impitoyable. C'est
voilà.
Ça, oui.
Et il y a peu, j'avais fait un article en montrant le rapport qu'on pourrait établir entre Dallas et Plus belle la vie actuellement.
Voilà, bon. J'allais te le dire. C'est le numéro un de la pile.
Et qu'est-ce qui se passe quand on regardait avec attention? Moi, j'avais eu la chance à l'époque de rencontrer Sue Ellen, de rencontrer J.R. comme ça, parce que un de mes amis. Et j'avais vu des séquences qui ne passaient que 3 mois ensuite en France. Donc j'étais très fier et j'étais une espèce de vedette parce que j'avais toucher du doigt ces personnes, ces héros, en bien des cas. Mais ce qui était intéressant, c'est que, dans le fond, quand on voyait Dallas, et après je l'ai fait pour Plus belle la vie, on pouvait analyser cela en termes structuralistes.
Hein. Oui, nous l'avons défendu d'ailleurs à la même émission.
Voilà, en termes de Lévi-Strauss, on pouvait montrer comment J.R. représentait ça, comment Sue Ellen représentait Junon et tout à l'avenant. Bon, pourquoi je dis ça? Ce pour dire qu'à bien des égards, on voit revenir ces dieux de l'Olympe sous forme de ces figures emblématiques. Alors, ça pouvait être Dallas, il fut un temps, ça peut être Plus belle la vie actuellement. Moi, je l'avais fait comme ça de chic et sans en faire un vrai travail sérieux ou scientifique, mais on pourrait s'amuser, véritablement.
Oui, mais on est plusieurs
à faire des structures de cet ordre. Voilà, voilà pour moi ce qu'est cette religiosité.
Très bien.
Et qui prend ces formes-là.
Oui. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Probablement, il y aurait beaucoup à dire. Je vous recommande ce livre qui est tout à fait excellent et qui résume bien la pensée de Michel Maffezoli, car il a une pensée très structurée, contrairement à ce que notre dialogue impromptu aurait pu laisser penser. Donc, je vous invite à cette lecture. Elle est très heuristique. Enfin, elle ouvre beaucoup de portes et quelquefois peut susciter des réticences qui sont la qualité d'une œuvre majeure.